enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Donc le titre d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 2 et au verset 5. C'est dans l'épisode des noces de Cana. Marie, la mère de Jésus, dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Et ça doit être ce qui dirige notre vie et notre quotidien. « Faites ce qu'il vous dira. » Plaçons-nous dans notre contexte de tous les jours. On est vraiment dans les choses pratiques, dans ce que vous devez faire tous les jours. Il y a des besoins et il y a des pressions. On voit là, ça commence à être tendu dans ces noces de Cana. La fête risque d'être gâchée. On n'a plus assez pour terminer la fête. Ça va être la honte pour les organisateurs, pour les mariés, pour la famille. On ne va pas pouvoir terminer comme il faut. Et il y a des pressions à ce moment-là. Les gens commencent à être tendus. Ils disent « qu'est-ce qu'il faut faire ?» On commence à s'affoler. Et puis maintenant... Marie, la mère de Jésus, est au courant et elle connaît son fils. Il nous est dit que l'eau changée en vin, c'est le premier miracle qu'il a fait à cet endroit. Mais ce n'est pas le premier miracle de son ministère. Elle savait déjà de quoi il était capable, qu'il pouvait intervenir. Donc elle vient là pour dire, moi je peux rien faire, mais je connais quelqu'un qui peut faire. Et ça, c'est déjà un premier signe d'intelligence. Et trop souvent, on se laisse mettre la pression sur nous-mêmes. Il faut que je trouve une solution à cette situation. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais ici, la meilleure des choses à faire, on peut tout simplement transposer. On va à Jésus et on lui parle déjà du problème. Des fois, on se fait piéger. Qui ne s'est jamais fait piéger à ça? On essaie chaque fois de trouver des solutions. Et finalement, on dit, on pourrait prier. Des fois, le finalement, ça veut dire, il n'y a plus rien à faire. On prie en disant, voilà, Seigneur. On ne lui demande même pas d'intervenir. Il y a certains, quand ils disent, il n'y a plus que la prière, ça veut dire que c'est un constat d'échec. Maintenant, il ne peut plus rien. Ils n'espèrent même pas une transformation de la situation. Ils veulent juste, bon, s'en remettre à Dieu. Donc, le fait ce qu'il vous dira, c'est... Devant un problème, quoi faire? Il y a des gens qui, quand cette question se pose, quoi faire? Je sais. Même s'ils ne savent pas, ils pensent qu'ils savent. Quelqu'un a dit, il y a les croyants, et puis il y a ceux qui croient qu'ils croient. Il y a beaucoup de gens autour de nous, et vous leur poserez la question, ils sont croyants, ils sont chrétiens, ils pensent qu'ils le sont. Et il y a beaucoup de gens, quand il y a un problème, ils pensent qu'ils savent. Nous sommes maintenant dans une situation familiale avec des enfants à plusieurs âges, etc. Mais c'est impressionnant, surtout quand on observe des enfants qui sont jeunes, bas âge, combien ils pensent tout savoir déjà. C'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas vrai? Ils pensent déjà savoir tellement de choses. Et nous, qui avons appris un peu plus avec l'expérience des années, on se rend compte... De tout ce que nous ne savons pas. Et on se dit, et eux, ils sont au début encore relativement de leur vie, et ils pensent déjà savoir tellement. Mais c'est encore un signe de, peut-être là, spirituellement, de jeunesse spirituelle, d'immaturité, de croire qu'on sait tout. Alors, il y a ceux qui, ils pensent qu'ils savent. Ensuite, il y a ceux qui, devant un problème, ils courent partout. Ils cherchent des solutions partout. Ils demandent à n'importe qui. Les grands de ce monde demandent à des voyantes, à des sorciers, à des charlatans de toutes sortes pour recevoir des directions pour savoir comment mener des grands pays influents, importants. Et ce n'est pas une légende, ça. Il y a eu toujours des conseillers. On voit toujours un peu cette image... du roi avec son conseiller qui est plus ou moins magicien ou des choses comme ça, plus ou moins sorcier. Parce que les gens ont toujours voulu un peu trouver des solutions pour savoir. Il y a dans le monde chrétien, il y a aussi des gens qui sont habitués, quand ils ne savent pas quoi faire, ils demandent au pasteur ou à quelqu'un comme ça qui a une image de pasteur. Et est-ce que c'est une bonne chose de demander au pasteur? Ben, pas toujours, hein, parce qu'il n'est pas Dieu. Un jour, un étudiant de l'école biblique Réma a croisé Kenneth Hagin dans un couloir. Et le ministère était déjà bien développé, donc vous n'aviez pas toujours l'occasion d'avoir une conversation personnelle avec lui. Quand ça a commencé, il y avait 47 étudiants la première année. Mais quelques années plus tard, vous aviez 2000 étudiants à peu près par an. Donc là, pour avoir un entretien avec lui, c'était assez difficile. Et voilà qu'il le croise dans le couloir. Il dit, ça y est, je vais saisir l'occasion. Et il lui demande, et il dit, frère Hagin, est-ce que vous pensez que... Il lui explique en deux mots, est-ce que vous croyez que ça, c'est la volonté de Dieu pour ma vie et mon ministère? Et il le regarde, puis il fait une grimace, il dit, comment je pourrais le savoir? Alors c'était la consternation, parce que il avait quelque part cette image que un homme de Dieu, ou un prophète, ou un pasteur, c'est quelqu'un qui est vraiment dans les secrets de Dieu. Il sait absolument toujours tout, et donc il n'y a qu'à aller chez lui, et voilà, il y a le conseil. Et je trouve que cette réponse est absolument admirable, de simplicité. Nous avons dans la Bible des grands prophètes comme Élie, Élisée, dont nous avons parlé récemment. Mais ils n'avaient pas une centaine de révélations par jour. Nous avons quoi? Quelques pages de la Bible sur toute leur vie. Ils n'étaient pas tout le temps au courant de tout ce qui se passe partout, dans le monde invisible, dans la vie de chacun des gens. Et il y a des moments où effectivement, ils avaient une révélation. Élisée répond un moment à son serviteur et dit, « Mon esprit n'était pas absent quand tu es allé auprès de Naaman et que tu as essayé de lui soutirer de l'argent, des vêtements, etc. pour sa guérison. J'ai bien vu ce qui se passe. » Mais il ne nous est pas dit dans la Bible qu'il savait en permanence tout ce qui se passait dans la vie des gens. Donc un don spirituel, une manifestation d'un ministère est possible, mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous, que nous ayons notre voyant chrétien. Parce qu'au début dans la Bible, il est dit que les prophètes, on les appelait les voyants. Ben oui, parce que c'est ceux qui voient. Et souvent Dieu se révélait à eux à travers d'une vision. Donc il est juste de parler de voyant. Mais il est assez maladroit d'utiliser ce terme actuellement. Alors on ne veut pas qu'il y ait de confusion entre les voyantes et les hommes de Dieu. N'est-ce pas vrai? Déjà, assez de confusion comme ça. Alors, quoi faire? On peut dire qu'il y a des gens, c'est comme s'ils jouaient à la roulette russe pour leur vie. Parce que c'est la roulette russe, donc vous avez un revolver, un barillet, vous mettez une balle dedans, vous tournez et puis vous appuyez pour voir si ça clique ou si ça explose. Donc, il y a des gens, ils jouent à ça avec leur vie. Ils vont chez un tel, qu'est-ce que tu penses? Ah oui, le Seigneur me dit que, et puis... On n'a pas à faire ça, mais nous avons à faire ce que Marie a fait. Elle est allée auprès de Jésus, elle lui a parlé du problème, et puis ensuite, Jésus n'a même pas dit « oui, je vais m'en occuper ». Elle avait cette confiance en lui, « faites ce qu'il vous dira ». Et moi, c'est mon exhortation de ce matin, cherchez toujours plus à savoir ce que lui vous dit. Si le Seigneur vous avait dit ce matin, ne va pas au culte, j'ai un autre plan pour toi, vous auriez fait quoi? Peut-être la plupart d'entre nous, on aurait dit, bon, certainement, ça c'est pas une pensée de Dieu, parce que c'est sa volonté que je sois ici. Mais il se peut que ça soit pas la volonté de Dieu, vous réalisez? Bon, souvent, si vous vous dites, oh, j'aimerais mieux rester dans mon lit, ça c'est pas toujours une pensée de l'Esprit de Dieu, rarement. Mais si vous en avez besoin, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. J'ai lu quelque chose qui m'a interpellé. C'est que l'armée du salut a commencé par une révélation que quelqu'un a eue pendant le chemin qu'elle faisait pour aller à l'église. Elle allait à l'église, mais elle a réalisé qu'il y avait des femmes qui étaient derrière les fenêtres dans les maisons. Là où elle passait, et Dieu lui parlait des besoins que ces personnes avaient, et que elle ne pourrait pas y répondre simplement en se rendant dans une réunion. Vous me suivez? Donc, il est nécessaire de réaliser qu'il y a des choses, beaucoup de choses de notre vie, qui se passent en dehors de l'Église. Il est très important pour nous, dans notre vie, d'arriver à avoir cet équilibre entre réunion ou pas réunion. Chez les chrétiens réveillés, qui font des expériences avec Dieu, qui vivent des cultes dynamiques, etc., il se peut qu'il y ait un engouement pour les réunions. On a toujours plus envie de se retrouver. Parce qu'il se passe de bonnes choses, l'Esprit de Dieu agit, on s'encourage, on retrouve des frères et sœurs qui pensent la même chose que nous, etc. Mais vous réalisez qu'il peut y avoir un effet, je mesure mes mots, pervers, dans le sens qu'au bout d'un moment, on est tellement bien qu'on oublie que le but, c'était des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont en train de mourir. Et on arrive à être tellement pris par nos réunions qu'à la fin, on ne fait plus le ministère. Ministère, c'est servir l'humanité. À l'inverse, bon, il y en a, ils ne veulent pas venir pour se laisser former, transformer par Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont alors pouvoir influencer le monde qui meurt, puisqu'ils n'ont pas pris le temps de se laisser transformer? Donc, l'importance de trouver le juste équilibre entre venir, recevoir, entendre et aussi agir. Bon, il y a déjà un endroit pour agir ici aussi, dans le ministère. On n'est pas là juste pour une formation intellectuelle, d'acquérir des connaissances. On est là aussi pour expérimenter. Mais ça m'avait interpellé, cette façon dont ça s'est passé pour l'armée du salut que j'ai pu lire dernièrement. Je pense aussi que, un exemple, les témoins de Jéhovah font des fois leur tournée le dimanche matin. Parce qu'ils pensent que pendant ce temps, s'ils sonnent à la porte et que quelqu'un n'est pas à l'église, ce n'est donc pas un chrétien engagé ou quelqu'un qui est déjà pris par la religion et qu'ils auront un accès plus facile auprès de cette personne. Quelque part, c'est une stratégie, mais qui doit nous faire réfléchir que, effectivement, si nous avons nos cultes le dimanche, toujours, ça ne nous donne aucune possibilité de rencontrer des gens qui ne sont pas à l'église le dimanche matin. Tous ceux qui sont dans leurs activités de sport, loisirs, détente, s'ils ont toute la semaine leur activité professionnelle et que ça c'est le moment libre où vous pourriez les rencontrer quelque part, vous n'avez donc aucune possibilité de les rencontrer. Vous voyez, c'est juste des pistes de réflexion que je donne. Moi, je crois que c'est d'autant plus important que nous ne voyons pas simplement notre vie spirituelle par le côté réunion, mais plus par le côté conduit par l'esprit. Je ne suis pas en train de scier la branche sur laquelle je suis assis, parce que, si vous voulez, beaucoup de gens raisonnent comme ça en tant que pasteur. Quel devrait être mon intérêt ? Le maximum de monde dans les réunions où je suis, etc. Ça pourrait être une vision. Mais ce n'est pas la bonne vision. Vous comprenez ça? La bonne vision, c'est un maximum de personnes sur le terrain influençant le monde. Donc des gens formés pour aller. Et pas juste venir chauffer une chaise et faire que notre comptabilité en nombre de membres est... On peut faire des graphiques avec des flèches qui montent et être satisfait. Nous avons besoin plutôt de disciples qui savent entendre de Dieu et agir sur le terrain. Plus que de faire un club où on se rassemble et puis chacun vit de nouveau sa vie à sa façon. Il nous est dit dans la parole de Dieu, j'ai eu cette pensée, à un moment... Quand les gens sont venus vers Jean-Baptiste, ils ont dit « Nous sommes les enfants d'Abraham ». Vous vous rappelez de ça ? « Nous sommes les enfants d'Abraham ». Jean-Baptiste leur a répondu quoi ? Il a dit « De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham ». De ces pierres. Ça veut dire que être un enfant d'Abraham dans le naturel ne signifie pas grand-chose. Parce que Dieu a pris de la poussière, il en a fait l'homme, il a soufflé la vie dedans. Comprenez ? Donc, des enfants naturels d'Abraham, ça n'a pas de signification. Par contre, si on prend Romains où il est dit « Ceux qui sont conduits par Dieu sont réellement fils de Dieu », ça a une signification spirituelle. Ça, c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Votre filiation ne doit pas être juste naturelle et charnelle. Votre appartenance à Christ ne doit pas juste être « Ouais, j'appartiens à cette église ». Déjà, vous n'appartenez pas à une église. Vous appartenez au bon berger si vous êtes sa brebis. Mais si vous appartenez à une église, c'est déjà un problème. Si le pasteur pense que les brebis lui appartiennent, c'est déjà un problème. Moi, j'aime ce terme que j'entendais souvent par John Austin en anglais. C'était « under shepherd », être un sous-berger. Nous voulons être des sous-bergers pour toujours avoir cette idée qu'il y a le souverain berger, le bon berger, à lui appartiennent les brebis. Et c'est tellement important. Ça développe notre notion véritable du corps de Christ. Nous ne voulons pas faire de l'œcuménisme bon marché, mais nous voulons croire que l'unité de la foi est un des objectifs de Jésus pour son Église. Il ne revient pas pour rassembler ses épouses. Il n'est pas polygame. Il vient pour son épouse, une seule, sans tache ni ride. Et vous n'avez jamais, je pense, de problème avec des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui le louent, qui veulent le servir, même s'ils ne sont pas dans votre église locale, même s'ils ne voient pas toutes les choses de la même façon, mais on sait se reconnaître les uns des autres, n'est-ce pas vrai? Par contre, il y a des gens qui parlent toujours en termes d'appartenance, de l'endroit où ils sont, et nous avons dans notre famille mon beau-frère qui est engagé dans les Gédéons. Elle dit, dans les réunions de Gédéon, il y en a toujours certains que la première question c'est, vous êtes de quelle église? Et alors, il sait tout de suite de quelle église ils sont, parce que c'est la même catégorie de personnes, je dirais pas qui est obsédée, quasiment, il faut le dire les choses comme elles sont, par ce côté appartenance. Pourquoi il y a ce côté appartenance? Souvent, ça vient du fait que, dans le passé, Dieu a souvent donné des souffles nouveaux par le Saint-Esprit. Et quand ce souffle nouveau est donné, des fois c'est rejeté. Cette nouvelle chose que Dieu veut faire, un réveil. Le fait de se sentir rejeté, ça demande après du courage, parce qu'on est blessé, on est dans son coin, etc. Ça demande du courage de ne pas s'enfermer dans un petit groupe et d'oser de continuer d'avoir cette ouverture sur le reste du corps. De ne pas se réfugier dans certaines doctrines, en disant « nous croyons ça et on va défendre ça ». Personnellement, je n'ai rien à défendre, même pas la parole de Dieu. Pourquoi j'ai besoin de défendre la parole de Dieu? Vous ne croyez pas qu'elle sait se défendre? Quelqu'un dit une fois, on n'a pas besoin de défendre un lion, pour prendre cette image. Il sait se défendre lui-même, de défendre quelqu'un qui est petit ou qui est faible, mais on n'a pas besoin de défendre la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole. Même après des milliers d'années d'attaques, pour attaquer la véracité de la Bible, sa crédibilité, ça reste toujours le best-seller mondial et ça continue toujours de faire son œuvre de transformation. Je ne suis pas inquiet pour la parole de Dieu. Je ne suis pas inquiet pour Jésus. Mon combat n'est pas, chaque fois que sort un film qui est mauvais, de dire vite, faisons une pétition et on s'agite, parce qu'on a peur que des gens pourraient être détournés en regardant cette histoire et avoir une mauvaise image de Jésus. Moi, je crois que Jésus peut se révéler à quelqu'un tel qu'il est. Et je vois dans la Bible que même quelqu'un qui était complètement possédé, qui vivait dans les sépulcres, qui était lié par les démons, a été attiré par Jésus et a été délivré. Moi, je veux fixer mes regards sur cette capacité de Dieu. On dit que certains milieux sont difficiles, certains pays sont difficiles, les gens de certaines religions sont difficiles. Ce n'est pas difficile, c'est tout simplement impossible. La Bible, c'est impossible pour les hommes, mais tout est possible à Dieu. Des endroits où nous, on aurait dit, mais jamais on pourra atteindre quelqu'un. Mais regardez notre ami, le pasteur David Traoré. Une révélation de Jésus dans là où il était. Le Seigneur lui apparaît, il est transformé. Combien on entend de témoignages de gens qui étaient musulmans et Jésus se révèle à eux et dit « Je suis, voilà, celui dont même le Coran parle. » le prophète et il se révèle à eux tel qu'il est. C'est possible. Ces choses sont possibles. Il est important pour nous d'entendre de lui. Nous sommes dernièrement aussi plusieurs fois penchés dans le livre de l'Apocalypse et je ne sais pas, je crois que c'est une direction pour l'Église. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre connaissance des différentes lettres pour les Églises, mais je crois que nous vivons un moment où il faut que vous les étudiez. Lisez-les. Si vous faites une lecture systématique de la Bible, d'accord, c'est bien. Mais si vous vous mettez un an à lire la Bible, dans un an, vous allez relire l'Apocalypse seulement. J'ai dit, sélectionnez vos lectures. Il y a des choses importantes à connaître maintenant pour savoir ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est peut-être intéressant de lire le Lévitique en détail pour voir toutes les sacrifices et les prescriptions. Mais je crois que c'est plus important par l'Esprit de Dieu de lire certaines choses que Dieu prépare pour maintenant. À quelle époque nous vivons? Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église? Donc, je ne vais pas revenir en détail sur maintenant toutes les Églises. Ce n'est pas le sujet d'une étude détaillée pour ça. Mais je crois que l'Esprit de Dieu voudrait nous parler au travers de ça. Et il y a une doctrine dont il parle à l'Église à la fois... L'église d'Éphèse, il lui dit dans Apocalypse 2, 6, « Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais, haïr, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » On dit Dieu est amour, hein, mais il a de la haine pour certaines choses. Vous imaginez ça? Dernièrement, on avait aussi pris cet exemple de Ésaïe 42, où il était dit Dieu est comme un homme de guerre qui excite son ardeur. Dieu, il est multiple. Il n'est pas juste dans sa bonhomie comme ça, un peu vieux pas très au clair sur certaines choses. Non, c'est quelqu'un qui a des sentiments et des sentiments forts. Il a un sentiment d'amour très fort, mais il y a aussi des sentiments d'aversion, des choses qu'il déteste, qu'il a en horreur. Et là, il est dit, il y a une œuvre dont il a horreur. Alors, moi, je crois que ce serait une bonne chose d'y prêter attention. Il hait les œuvres des Nicolaïtes. Et un peu plus loin, dans l'église de Pergame aussi, il dit, bon, je sais ce qui se passe chez toi. L'église de Pergame, c'est là où était le trône de Satan. Pas mal ça. Vous savez que Satan est unique. Hein. Il n'est pas omniscient, omnipotent et il n'est pas omniprésent non plus. S'il est à un endroit de la planète Terre, il n'est pas à l'autre bout de la Terre en même temps. Et je ne sais pas où il est actuellement. Vous non plus peut-être. Mais nous savons que si c'est pas lui, il y en a assez qui travaillent avec lui dans le même sens. Son royaume est aussi une réalité. Mais à un moment donné, c'est le Seigneur lui-même qui le dit dans Apocalypse 2, 13, il dit, c'est chez toi qu'est installé le trône de Satan. Donc, il avait son siège. C'est de là que certaines choses passaient. Et il nous a dit, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Donc, il y avait une telle opposition contre l'évangile, parce qu'il y avait une présence démoniaque et la présence de Satan lui-même à cet endroit. Donc, un témoin fidèle de Jésus a été mis à mort. Il dit, chez vous, là où Satan a sa demeure. C'est là qu'il est installé. Vous êtes au pire endroit de la terre. C'est là qu'il demeure et qu'il agit. Il dit, mais, en fait, il dit, je te fais pas de reproche sur ça. Je connais ta situation. Je sais que c'est pas facile. Mais ce que je te demande, c'est de faire le ménage. Je le traduis à ma façon. Il dit, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Il dit, j'ai quelque chose contre toi, ton problème. Ce n'est pas Satan qui est à l'extérieur de l'Église, même s'il a sa demeure dans l'endroit où tu habites. Ton problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'Église. C'est que tu as des gens qui font la même chose que ce que Balaam avait conseillé à Balak. Il a dit, si vous ne pouvez pas affronter les chrétiens directement, alors essayez de faire des compromis, de faire que dans leur esprit, il y ait des compromis de manger des viandes sacrifiées aux idoles, se livrer à la débauche, qui peu à peu font qu'ils sont liés et que finalement, ils se mettent eux-mêmes dans des situations d'interdit. Il dit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc, réapparaissent les Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas besoin de défendre la parole de Dieu en tant que telle. C'est l'épée qui sort de la bouche de Jésus. Personne ne peut tenir, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, contre la parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous imaginez ça? Cette puissance de création, qui peut être une puissance de destruction aussi des ennemis de Dieu. Parce qu'il va y avoir une bataille. On peut dire ça, il va y avoir une bataille. Et la puissance de l'ennemi ne sera rien en comparaison de ce qui va se passer quand Jésus intervient et ouvre sa bouche. Ça doit nous encourager quand il nous est dit que la parole de Dieu dans notre bouche peut faire une différence. Croyez que c'est possible. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, autant pour la doctrine des Nicolaïtes, que nous pourrions étudier longtemps, mais je voudrais simplement vous dire, en résumé, de quoi il s'agit. Nicolaïte commence par le début, Nikos, qui est tout ce qui est en rapport avec un vainqueur, ou quelqu'un qui exerce la victoire. Ça peut être traduit aussi par un conquérant. Ainsi, le prénom Nicolas, c'est ce qu'il signifie. C'est celui qui remporte la victoire. Ça peut être dans le sens, pas seulement quelqu'un qui court une course et qui est le premier de la course, mais plutôt le sens de quelqu'un qui remporte la victoire sur quelqu'un d'autre. C'est ainsi que la doctrine des Nicolaïtes, c'est en fait un combat qui se termine d'une certaine façon, qu'il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre. Et donc, c'est en fait une réintroduction de la domination de quelques-uns sur la plupart. Dieu avait donné un système de prêtrise pour l'Ancien Testament. Tout le monde ne pouvait pas s'approcher de lui n'importe comment. Ainsi, il y avait des prêtres. On appelle ça dans un terme habituel, le clergé. Il y avait les laïcs, et puis il y avait le clergé. Ensuite est venue la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, ça se passe comment? Nous sommes tous, un Pierre, roi et sacrificateur. Donc il n'y a maintenant plus aucune notion de clergé. Il n'y a plus de prêtre, si ce n'est chacun d'entre nous. Et donc il y a une tentative de réintroduction dans le corps de Christ de ce système à deux vitesses, deux catégories de croyants, le clergé et les laïcs. Mais laïc, ça veut dire quelque chose qui est du profane, qui n'est pas du sacré. Comment peut-il y avoir des laïcs dans le corps de Christ? Comment est-ce possible? Réponse: impossible. C'est impossible. Il n'y a aucun laïc parmi vous. C'est une nouvelle pour quelques-uns. Ça n'existe pas, en fait. C'est une invention du diable pour en asservir quelques-uns. C'est comme quand, des fois, mes collègues ou autres dans le ministère, on parle de plein temps. Et tu es un chrétien à mi-temps ou quoi? On est tous appelés à être entièrement à Jésus et le servir entièrement, quelle que soit la forme du service que ça fait. Et que vous soyez apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur ou ce que vous voulez, ça ne fait pas de vous une autre catégorie de chrétiens. Il n'y a pas de chrétien premier choix, et, ou première classe, et deuxième classe, ou troisième catégorie encore, ou que sais-je. Nous devons continuer de croire ce que le Nouveau Testament nous révèle sur la nature de l'Église de Jésus-Christ. Que nous sommes tous membres à part égale, que nous avons tous, pas les mêmes fonctions forcément, mais la même position. On est tous assis avec Christ dans les lieux célestes. Il n'y en a pas un qui est assis juste à côté, l'autre un petit peu plus bas, et des catégories comme ça, ou je ne sais pas, d'éloignement du trône de Dieu, vous savez, avec des distances. Donc c'est important de réaliser que cette doctrine, elle agissait puissamment dans l'Église en vue de détruire. Si vous dites, bon, il y a telle catégorie avec la doctrine des Nicolaïtes, ça, c'est le clergé. Et après, quels sont les résultats de ce genre de comportement? C'est que le jour où le chrétien a un besoin, il ne va pas se sentir capable de prier pour le besoin. Il aura besoin de venir au pasteur, parce qu'on pense que lui, il a plus de foi et plus de capacité pour obtenir des résultats. Mais d'où vient cette idée erronée? S'il a plus de foi, c'est peut-être qu'il a pris plus de temps pour lire la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais pas à cause de sa fonction. C'est là que nous nous trompons. Et quelqu'un a une fois dit... à un homme de Dieu, il a dit, oui, mais tout le monde n'a pas la foi comme vous. Et il a dit, mais transposez-le maintenant, au lieu de dire foi, transposez le mot foi et donnez à la place confiance. Ça veut dire, alors, tout le monde ne met pas sa confiance en Dieu comme vous. Et alors, ça prend une autre tournure. Réalisez ça. Si vous dites à quelqu'un, oui, mais moi, j'ai pas la foi que tu as. Maintenant, je le dis autrement. Moi, je ne mets pas ma confiance en Dieu comme toi. Et alors, en fait, je suis humilié parce que je dis moi-même quel est mon problème. Je dis, oui, je reconnais que toi, tu mets ta foi en Dieu, mais que moi, je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je n'ai pas mis assez de temps, ou ça n'a pas été assez important pour moi que je prenne ce temps. Et après, on est jaloux des résultats de quelqu'un. Il faut que ça cesse, ces choses. Chacun a besoin d'entendre de Dieu. Et faites ce qu'il vous dira. Jésus a dit un moment dans Jean, il a dit, mes brebis entendent ma voix. S'il y a un silence en face quand vous avez un problème, deux possibilités. Soit que vous n'êtes pas sa brebis, alors là vous avez des problèmes. Ça c'est possible aussi, il y a des gens qui n'entendent jamais de Dieu. Vous savez pourquoi? Tout simplement, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont peut-être une adhésion intellectuelle, disent oui, on est d'accord avec l'évangile, avec tout, mais ils n'ont jamais fait eux-mêmes la démarche de devenir enfant de Dieu. Donc ça, c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, c'est de ne pas développer sa communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est plus on entend de lui, plus on s'habitue à sa voix, plus on sait discerner. Et au début, on peut peut-être se tromper, mais on apprend à entendre de lui. C'est Gloria Copeland qui dit dans un livre que la première fois qu'elle a entendu une direction précise, c'était les feux de la voiture étaient allumés. Du temps où il n'y avait pas encore tous ces bruits sonores qui vous expliquent que vos lumières ne sont pas éteintes, il pouvait y avoir des problèmes de batterie vide au moment où vous avez besoin de la voiture. Elle a dit, mais Dieu nous éduque de manière à ce que peu à peu, on apprend à entendre sa voix. Mais Dieu parle, il veut nous parler, il veut communiquer avec nous. Il nous dit certaines choses. Devenons comme lui. Vous savez, la Bible nous dit aussi, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Vous êtes tous d'accord avec ça? Tel il est, tel nous sommes tous dans le monde. Et je me suis dit, en quoi est-ce que nous sommes comme lui? Ou en quoi est-ce que nous voudrions être comme lui? Quel est votre désir? Quand vous pensez à Jésus et à vous-même, en quoi est-ce que vous voudriez lui ressembler le plus? Vous savez, l'homme a avant tout, l'homme ou la femme, hein, c'est pas au sens masculin ou féminin. L'homme a soif de pouvoir. Depuis toujours. Depuis toujours, on a soif de pouvoir. On veut dominer. On veut diriger notre propre vie. Adam et Ève, ce qui les a fait tomber, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un détachement de « on veut mener notre vie à notre façon ». Je veux diriger ma propre destinée. Je sais mieux ce qui est bon pour moi. C'est cet esprit d'indépendance avec Dieu est finalement stupide parce que ça nous coupe de la source de vie. Mais l'homme a cette soif de puissance qui fait que même lorsqu'on est chrétien, même après des années de vie chrétienne, qu'on pense tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. On pense à quoi ? On pense à Jésus qui dominait la maladie, qui dominait toute situation d'adversité, qui pouvait faire des miracles. On pense avant tout à sa puissance. On ne pense pas tellement souvent à être comme Jésus dans sa douceur, son humilité, ou aimer tout le monde, et, l'obéissance, le sacrifice, le don de soi. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous pourrions être tels que lui. Et si je reprends un de mes messages récents, quand j'ai dit « je suis passionné », on pense aussi que Jésus était passionné. Il était passionné et on l'a vu, on ne va pas le refaire encore une fois, mais la passion de Jésus pour nous l'a conduit à la mort et à la souffrance. Et que finalement, quand on pense passion, on peut aussi penser compassion, souffrir avec. Est-ce que nous avons, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, assez entendu de Dieu pour qu'il nous parle de compassion ? Faites ce qu'il vous dit. Pour moi, ça veut aussi dire faites preuve de compassion. Ce monde a besoin de gens qui ont de la compassion. On passe dans les rues, on voit des gens, ils sont ternes, ils sont tristes, ils sont malheureux. Certains mendient. Qu'est-ce qu'on pense quand on voit un mendiant dans les rues d'une grande ville ? On pense, oui, en fait, c'est encore un truc organisé. Et on le sait. On a entendu des histoires, on a entendu qu'il y a des gens qui, en faisant la manche, comme on dit dans le métro, finalement, ils reçoivent beaucoup d'argent au fin de la journée. Peut-être qu'ils reçoivent juste 50 centimes. Mais si vous recevez 50 centimes 200 fois par jour, ça fait de l'argent. Et donc, nous ne savons pas discerner de l'extérieur est-ce qu'il mérite d'être aidé ou non. C'est pour ça que c'est important d'être conduit par l'esprit, de pouvoir faire preuve de compassion, de pouvoir souffrir avec quelqu'un. Mais si on s'est déjà barricadé dès le début, on est endurci, on a nos petits raisonnements en disant de toute façon, ceux qui l'ont, ils l'ont choisi, etc. Comment pouvons-nous être attentifs aux besoins ? Jésus nous a, je ne vais pas utiliser le mot séduit, mais ce qui nous a attirés en lui, c'est dans sa personne, cette capacité d'être proche des personnes qui souffrent. Trouvez pas que c'est quelque chose d'admirable qu'il pouvait toujours, au milieu d'une foule, s'arrêter. Il voyait là Zachée sur l'arbre et dit « descend ». Il y avait des tas de monde à un endroit. Il y a cette femme qui le touche et puis les disciples lui disent tout de suite « tu as été touché ». Ben oui, parce que la foule te bouscule. Ils sont tous là autour de toi. Non, il savait il y a une personne au milieu de la foule. Et moi, je trouve ça assez admirable. Il pouvait être ému de compassion. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas gérer ses émotions ou qu'il ne pouvait pas se contrôler. Bien que des fois, il nous a dit, c'était tellement fort quand il a pleuré près du tombeau de Lazare. Il savait faire preuve de libérer ses émotions. Mais le plus important, c'est qu'il savait être ému de compassion. L'histoire du Samaritain nous en parle. J'aimerais qu'on prenne Luc 10 et qu'on finisse juste ce temps de partage sur cette pensée de la compassion. Que ferait Jésus à ma place est toujours une bonne question à se poser. Toujours. Qu'est-ce qu'il ferait de cette journée? Qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation particulière? Luc 10, je ne veux pas prendre le détail, on sait qu'il y avait un homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho. Toute une symbolique en soi. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Jéricho, c'est la ville qui était maudite par Josué, qui n'aurait jamais dû être reconstruite, et qui a été reconstruite. Et il y a une malédiction. Il dit, celui qui reconstruira cette ville, son enfant va mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est la ville maudite. C'est vraiment c'est un homme qui descend. On a déjà un jugement sur lui. Oui, il n'est pas spirituel. Regarde, ce qui lui arrive, il le mérite. Parce qu'il était spirituel, il était à Jérusalem, dans la ville de Dieu. Et maintenant, il descend dans cette autre ville. Comprenez, c'est précis. C'est pas n'importe comment que cet exemple a été donné. Il est tombé au milieu des brigands. Il y a déjà un jugement sur lui. Et un sacrificateur descend. Il voit cet homme, il passe outre. Et là, nous sommes de nouveau en train de juger. On dit, oui, ce sacrificateur, quel hypocrite, si c'était vraiment un homme de Dieu, il se serait occupé de cet homme qui était là, mourant et souffrant. Ce sacrificateur a mis la parole de Dieu en pratique en n'aidant pas cet homme. En ne l'aidant pas. Sa fonction lui interdisait de toucher un mort. C'était contraire à la loi de Dieu. Même un blessé, il ne pouvait pas se souiller. Il devait rester saint, mis à part pour Dieu. Jésus a pris exprès cette illustration qui est bien précise. Et donc nous sommes en train de juger le sacrificateur. Ensuite, le Lévite arrive. Le Lévite, c'était la personne qui faisait partie de la tribu des serviteurs de l'Éternel parmi tout le peuple. Ils avaient aussi une fonction bien précise à remplir. Et voilà qu'arrive la personne, Samaritain, méprisée, fait même pas partie du peuple de Dieu. Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, et ils ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, mais voilà qu'ils sont, il est quoi? Verset 33. Il est ému de compassion. Et Jésus nous en parle comme disant, voilà ce que je recherche. Je recherche, nous ne sommes pas là maintenant pour faire le procès d'une religion. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu avait donné des prescriptions pour les sacrificateurs et les lévites et tout ça. Mais maintenant, nous sommes en train de regarder quelle est la motivation de cet homme. La motivation est juste et c'est tout ce qui compte aux yeux de Dieu. Peu importe les choses extérieures. Si vous faites des bonnes choses que votre motivation est mauvaise, ça vous sera compté comme zéro de la part de Dieu. À l'inverse, on peut dire des gens, des fois, étaient maladroits, mais ils étaient bien intentionnés. Alors bon, il y a des choses qui ne sont pas parfaites peut-être, mais Dieu recherche ce qui se passe à l'intérieur de nous. N'est-ce pas vrai? Jésus était ému de compassion. Matthieu 9, 35 par là je crois. Pour les foules, il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité. Ces choses, il a fait par compassion. Mais il y avait aussi une compassion pour la foule. Verset 36, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez. Priez le maître de la moisson. Est-ce que vous avez prié le maître de la moisson dernièrement? Pour ça, pour cette chose? Faites ce qu'il vous dira. Alors je vous dis de la part de Dieu, priez pour des ouvriers. Alors on pense toujours, ah oui, il faut prier pour qu'il y ait des vocations, pour qu'il y ait des pasteurs, des missionnaires et des évangélistes. Ça c'est juste un des aspects. Prier pour des ouvriers, ça veut dire pas essayer de convaincre Dieu. Tu sais Seigneur, ce serait vraiment une bonne chose. Qu'on ait plus d'ouvriers. Si seulement tu voulais bien. Comprenez? C'est comme ça qu'on voit les choses des fois de façon tordue. C'est pas ça. C'est à partir du moment où je prie pour des ouvriers, Dieu a l'autorisation d'envoyer des ouvriers. Sinon, il ne peut pas le faire. C'est pas qu'il veut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il est lié par nos prières. Il faut lui libérer les mains, littéralement. Ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel. Dieu a les mains liées par son peuple qui ne croit pas, qui ne dit pas, qui ne prie pas. Et ainsi, il n'y a pas assez d'ouvriers parce que nous n'avons pas assez prié le maître de la moisson d'en envoyer. Et vous êtes les ouvriers. Il n'y a pas besoin d'en chercher plus loin. On a plein d'ouvriers ici. Il y en a tout plein déjà. Mais il faut encore plus les libérer pour dire libère l'onction. Libère les capacités, libère les ministères, libère les dons spirituels. Qui les a liés? Nous les lions, dans nos pensées et dans nos paroles, dans nos cœurs des fois aussi. Mais regardez, 38, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. 10, 1, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donne le pouvoir. Il y a tout de suite une mise en pratique et une mise en action de ce qu'il voulait faire. Donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Il nous faut chasser les démons. C'est un besoin nécessaire. Sinon, vous croyez qu'ils vont partir tout seuls? Vous croyez qu'ils vont arrêter d'agir? Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Mais on ne les voit pas. Peu importe. Mais tu vois leurs agissements. Tu vois les résultats de leurs actes sur la vie des gens. Est-ce qu'on a besoin de les interroger? Quand est-ce que tu es venu? Depuis quand tu es là? Combien vous êtes? Comment tu t'appelles? On n'a pas besoin de ça. La Bible ne nous dit pas ça. Elle dit simplement, chassez-les. Elle dit, toi qui agis dans cette personne, va-t'en. Il nous faut nous encourager à ça. Est-ce qu'on a besoin de crier sur la personne, de la plaquer par terre et l'empêcher de bouger? Non, la Bible ne dit pas ça. Est-ce qu'on a besoin qu'il y ait une manifestation? Non, ce n'est pas nécessaire. Jésus disait, silence, tais-toi et sors. Il ne disait pas, agite-toi, fais beaucoup de bruit et sors en criant. Des fois, on imagine qu'ils ne sont pas sortis parce qu'il n'y a rien eu. Mais des fois, le signe qu'ils sont partis, c'est que ça a changé. La personne est changée, est différente. Est-ce qu'on a besoin de le voir? Pourquoi nous le faisons? Pour faire un spectacle ou pour que la personne soit aidée? Vous savez, c'est pas toujours très agréable pour la personne. Ah, voilà la personne dont sont sortis sept démons l'autre dimanche. Et Marie de Madeleine, elle avait cette réputation. Ah, c'est celle dont sont sortis les sept démons. Mais c'est pas toujours très agréable, vous savez, pour les gens. Et facile à gérer. Quelque part, nous devons agir pour la bonne raison. Émus de compassion. On se rend compte, il y a une souffrance. La compassion, elle est là. Cette personne n'est pas heureuse. Elle ne s'en sort pas. Il faut la libérer. Il faut agir dans ce sens. Et on ne peut le faire que sur l'ordre de Jésus. La compassion. Dieu est plein de compassion. J'aime ce psaume 103. Comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Mais d'abord, il est dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Parce que des fois, il y a certaines situations, on dit, si j'ai ce que j'ai, je le mérite, c'est ma faute, etc. Réglons la question du péché. Dieu éloigne tes transgressions. Maintenant, on n'en parle plus. Donc, il n'y a pas de raison que tu continues d'être lié. Si vous voulez confesser un péché, faites-le. Mais ne restez pas accroché à cette idée. Si ça vous fait du bien, si ça vous soulage, faites-le, déclarez-le, priez avec un témoin. Dites, voilà, je veux dire, vraiment ça m'a lié, ça m'a embêté dans ma vie pendant longtemps. Et après, recevez cette compassion de Dieu. La compassion de Dieu est ce qui active son bras. Et même dans certaines situations où nous avons mal agi, où nous sommes coupables, j'ai souvent utilisé aussi les insensés par leur conduite coupable, s'étaient rendus bien malheureux, psaume 107, mais l'Éternel envoya sa parole et les guérit. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté en faveur des fils de l'homme. Mais même si nous sommes coupables, il nous est dit aussi, et ça c'est dans le livre de Job, une personne qui avait beaucoup souffert, hein, vous le savez. Pourquoi je ne trouve pas le livre de Job? Il est là. C'est dans l'Ancien Testament. Job 6, verset 14. Celui qui souffre. Y a-t-il quelqu'un qui souffre ici? Levez la main. Moyen. Quelqu'un souffre, il a droit à la compassion de son ami. Retenez ça. Celui qui souffre a droit, c'est un droit, hein, au droit on vous les doit, a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Si quelqu'un souffre dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Je parle d'une Église en général, désolé d'en parler négativement. On dit, il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas. Certainement, il a péché. Et déjà, on le regarde de travers. C'est dramatique. mais c'est souvent, trop souvent, la réalité. Et on se désolidarise. Alors qu'on devrait, compassion, souffrir avec. De dire, il a mal, ça me fait mal aussi. Je devrais, qu'est-ce que je peux faire? Pas me précipiter pour lui donner des conseils. C'est ce qu'ils ont fait, les amis de Job. Et dans les choses, ils ont dit des choses qui étaient justes, mais qui étaient mal adaptées à la situation. C'est pas qu'ils ont dit des choses qui étaient pas vraies, forcément. Mais elles n'étaient pas vraies dans le sens que c'était pas la situation de Job. Ils ont tout le temps dit, si tu avais pas péché, mets ta vie en règle et tout ira bien, etc. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. En ça, ils étaient coupables. Mais ici, il nous est dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Donc, j'ai dit, déjà, on le soupçonne un petit peu. Et après, si ça ne s'arrange pas, à force de souffrir, il y a des personnes qui partent. Ils ne sont plus à l'église. Puis même après, elles rejettent Dieu. C'est ça, abandonner la crainte du Tout-Puissant. Ça ne veut pas dire qu'ils renient vraiment Jésus, mais elles vivent comme si Dieu n'était plus dans leur vie, tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, c'est normal, il est dans cette situation, il s'est éloigné de Dieu. Hein. Mais ici, la Bible nous dit, il a droit à la compassion. Il faut continuer d'avoir de la compassion. Vous savez, je suis étonné des fois, on bricole, on est quelque part, soit dans le jardin, ou vous attrapez une toute petite écharde, une épine. Notre corps est grand proportionnellement à une toute petite épine. Il n'y a même pas un millimètre. Et cette chose vous embête pendant des heures, tout le temps. Chaque toucher, vous avez de nouveau... Ah, ça me rappelle, il y avait ce truc qui était dedans. Même si vous avez enlevé l'épine et que ce n'est pas encore guéri, vous le sentez encore. Et le corps de Christ, on devrait être plus sensible à ce qui se passe dans le corps. La Bible nous dit au contraire, quand un membre souffre, tous souffrent. C'est la réalité physique. Vous avez un petit bobo quelque part, vraiment tout petit, mais ça vous embête dans tout votre corps. On devrait plus avoir ce discernement du corps. Celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Ça fait au moins la troisième fois que je le lis maintenant, comme ça vous vous en rappellerez, hein, c'est fait exprès. Mais il nous est dit... Mes frères sont perfides comme un torrent. Ça, j'avais jamais beaucoup médité. Écoutez ça. Comme le lit des torrents qui disparaissent. Un torrent, c'est beau à voir, je trouve, dans la montagne. Torrent, c'est de l'eau vive. Et c'est frais si vous êtes en montagne en été. L'eau n'est plus très pure, hein, partout dans la nature. Mais sinon, ça donne envie de se désaltérer, de se rafraîchir. Mais le torrent a cette particularité. Que ce n'est pas forcément une rivière qui est alimentée en permanence par une source. Ça veut dire que vous avez de la neige qui fond, ça forme un torrent. Mais une fois que cette neige est fondue, il n'y a plus de source d'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ici, il nous est dit, des frères peuvent être perfides comme un torrent, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Mais viennent les chaleurs, ils tarissent. Les feux du soleil et leur lit demeurent à sec. Quand l'épreuve est là, quand ça chauffe vraiment, ils sont devenus secs. C'est ça que vous voulez? Être sec, être dur avec vos frères et ne pas avoir la compassion pour vos amis. Parce que quels meilleurs amis on pourrait avoir que ceux qui partagent avec nous la même foi en Jésus-Christ? Et alors, des fois, et c'est dramatique, il y a cette entre guillemets sécheresse, on n'a plus rien à offrir, mais la Bible nous dit le contraire, que même si l'ami toque au milieu de la nuit, prête-moi 3 pains, vous devez avoir quelque chose pour eux. Jésus a dit, je vous ai dit au début, le titre c'est faites ce qu'il vous dira, il a dit donnez-leur vous-même à manger. Si quelqu'un vient à vous, assurez-vous que vous ayez quelque chose à leur donner, que vous ne soyez pas sec, mais que vous soyez toujours capable parce que vous avez cette nature de Dieu en vous. La suite est très intéressante aussi. Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et périssent. Autrefois, c'était assez hasardeux, toutes ces caravanes. Une caravane qui arrive... Et c'était la richesse, l'abondance, la prospérité. Une caravane qui s'égare ou qui est attaquée, et c'était la ruine, la faillite et la mort peut-être pour ceux qui conduisaient. C'était des périodes périlleuses, hein. C'était pas, tout n'était pas assuré. Et au verset 20, il dit, ils sont honteux d'avoir eu confiance. Certains plaçaient leur confiance dans cette caravane, ça va marcher. Et là, mon commerce va être boosté et je vais me remplir les poches et tout va bien aller pour nous. Ou alors, on avait confiance dans cette caravane et maintenant on est honteux parce que c'était le fiasco et la perte. Mais nous, on peut faire confiance à Dieu. Et on peut se poser la question maintenant, à nouveau, de quoi sommes-nous passionnés? Soyons passionnés pour Jésus et ayons de la compassion les uns pour les autres. Intéressons-nous aux gens qui sont autour de nous. Pas au point de ne plus vivre vous-même. Vous êtes aussi un individu, hein. Vous pouvez pas passer 24 heures sur 24 à vous occuper que des autres. Mais la Bible ne dit pas ça. Elle dit simplement, occupe-toi de ton prochain. Celui que Dieu te met sur ton chemin. Celui qu'il te montrera. Le prochain, c'est aussi nos proches. Ça commence par notre famille. Ça commence aussi par le conjoint que Dieu nous a donné, ou nos enfants. Mais laissons cette action de Dieu en nous se faire pour qu'il y ait toujours ces eaux vives en nous. Amen. Amen.